RFI 6h30 à Kinshasa, une heure de plus ici à Paris.
RFI Matin.
L'actualité africaine. Bonjour Simon Bourtembourg.
Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, l'annonce du retour au pays de Joseph Kabila.
L'ancien président congolais justifie sa décision, dit-il, par la gravité de la situation sécuritaire et institutionnelle. Il est donc sorti de sa réserve après des mois de silence. RFI a pu consulter la déclaration écrite de Joseph Kabila. Les jours sont comptés dans la campagne présidentielle au Gabon. Le scrutin du samedi 12 avril approche à grands pas. D'ici là, nous donnons la parole aux 8 candidats en lice. 52 millions d'euros pour les victimes de Dominique Ongwe. La CPI confirme le montant historique des réparations. Mais qui va donc payer ? Dominique Ongwe, ancien commandant de l'armée de résistance du Seigneur, a été déclaré indigent. Nous reviendrons également dans cette édition sur la deuxième salve de droits de douane américains entrée en vigueur ce matin. De la musique au programme avec l'Atlantic Music Expo qui fait danser le Cap-Vert. Et puis dans 13 minutes après cette édition, le journal des sports avec au programme double ration de Ligue des Champions. Un pas de plus vers un retour dans la politique congolaise. Joseph Kabila a annoncé hier son retour prochain en République démocratique du Congo. Après plusieurs mois de silence et une année d'exil, l'ancien président congolais justifie sa décision par la gravité de la situation sécuritaire et institutionnelle en République démocratique du Congo. Celui qui a quitté la présidence en 2019 exprime sa volonté de contribuer à la recherche d'une solution à la crise que traverse le pays actuellement. L'annonce de ce retour intervient dans un climat politique qui est en effet tendu à Kinshasa et elle soulève de nombreuses questions, notamment sur ses intentions réelles. Patient Ligodi.
C'est une déclaration écrite, consultée par RFI, dans laquelle Joseph Kabila sort de sa réserve. Il évoque une situation hors de contrôle, marquée par la montée de l'insécurité et la déliquescence des institutions, et il annonce sa décision « je rentre sans délai ». Mais aucune date n'est précisée. Selon l'un de ses proches, ce retour pourrait avoir lieu dans les prochains jours, par l'est du pays, sans plus de précisions. De l'Ituri à l'espace Katanga, c'est toujours l'est de la RDC, indique un conseiller. Sur une éventuelle participation à l'action de la FCM-23 de Corneille Nangaa, la déclaration de Joseph Kabila ne dit rien, mais un de ses proches, interrogé par RFI, n'exclut pas cette hypothèse. Et il répond laconiquement « c'est possible ». Ce retour est annoncé alors que le PPRD, son parti, a marqué sa rentrée politique lundi. Un peu plus tôt, le parti avait rejeté l'appel du président Félix Tshisekedi à rejoindre les consultations dans l'optique de la composition d'un nouveau gouvernement dit d'Union nationale.
En République démocratique du Congo encore, l'indignation de l'opposition après les inondations qui ont fait plus de 35 morts à Kinshasa. Ce week-end, de fortes pluies se sont abattues sur la capitale congolaise. Nous agissons sans relâche pour protéger chaque vie, assure le ministre de la Santé publique. L'exécutif congolais qui a par ailleurs annoncé mettre en œuvre des distributions de kits d'hygiène, de vivres et de médicaments aux milliers de sinistrés. Un poste médical avancé a également été aménagé à l'Institut Lubumba pour assurer 10 000 consultations et distribuer 2 000 rations alimentaires. Pas suffisant pour l'opposition. Alexandra Branjon.
Une partie de l'opposition dénonce le manque de réactivité des autorités. Gouverner, c'est prévoir, rappelle le porte-parole de la coalition Lamuka, Prince Epenge, qui demande des aides de l'État pour les sinistrés.
Comment expliquer que 48 heures après les pluies diluviennes qui ont submergé les communes de Limété et ailleurs, les populations prises au piège si les toits de leurs maisons n'avaient toujours pas reçu de l'aide?
Dans un pays où il pleut 9 mois sur 12, souligne de son côté Hervé Diakiesse, porte-parole d'Ensemble pour la République, les autorités ne proposent aucune solution durable.
Les débordements des lits de rivière, nous connaissons les causes, c'est pas seulement des catastrophes naturelles. Il y a un ensemble de situations en amont qui auraient dû être prises en compte et qui, comme toujours, on agit avec dilettantisme parce que le pouvoir est plus préoccupé par son maintien qu'à être au service de la population.
En 40 ans, je n'ai jamais vu d'inondation de cette ampleur, comment le député Matata Ponyo, auteur d'un rapport sur la gestion de la ville.
Les lits de rivière sont envahis par des constructions anarchiques. Les caniveaux sont fermés. Des immondices envahissent les lits de la rivière. Mais que voulez-vous que l'eau fasse ? Et tout ça, c'est dans le rapport.
Le député qui a demandé à la chef du gouvernement de venir s'expliquer devant l'Assemblée nationale sur la gestion de cette crise.
Ils avaient été condamnés à mort après le coup d'État manqué du 19 mai 2020. 2024. Trois ressortissants américains ont été transférés de la RDC aux États-Unis. Leur peine avait été commuée le mois dernier en servitude pénale à vie avant l'annonce de leur grâce par la présidence congolaise. Voilà donc désormais les trois hommes de retour aux États-Unis. Leur transfert a été organisé en collaboration avec l'ambassade américaine à Kinshasa. Dans ce dossier, un ressortissant belge, Jean-Jacques Wondo, lui aussi condamné à la même peine, avait été libéré. C'était cette fois début février pour raison médicale avant d'être évacué vers la Belgique. 6 heures passées de 35 minutes à Libreville où l'échéance de la campagne présidentielle approche. Le scrutin au Gabon est prévu pour le 12 avril, soit ce samedi. 8 candidats à la présidence jettent donc leur dernière force dans la bataille. Une bataille relative tant le chef de la transition, Brice Clotaire-Oligui-Nguema, a rallié autour de lui la quasi-totalité du système politique. Ses adversaires ont pour beaucoup quitté Libreville pour aller convaincre les populations de l'intérieur du pays. Et d'ici samedi, date du scrutin, RFI donne la parole à l'ensemble des candidats en lice. Alain Simplice Bongouré est lui en train de briguer le suffrage des Gabonais. L'unité est le maître mot de son programme.
Je suis candidat pour apporter l'unité au sein du Gabon, pour délivrer le Gabon donc de tous les maux qui l'empêchent de connaître le développement qu'il faut. Je suis candidat pour réconcilier le Gabon avec ses enfants, pour faire en sorte que ensemble tous les Gabonais puissent présider à la destinée de notre pays.
Pourquoi c'est vous qui allez gagner et non un de vos 7 concurrents?
Parce que je suis le seul candidat issu d'un parti politique en lice dans cette compétition. Je pense que tous les autres partis politiques devaient me soutenir et donc que je gagnerais cette élection.
Beaucoup de candidats proposent de supprimer certaines institutions. Est-ce que c'est votre avis aussi?
Nous allons redimensionner ces institutions, donc je n'en supprimerai pas. Je ne ferai simplement que les réaménager.
Une certaine opinion dit que vous êtes là pour accompagner, faire valider la victoire du président Oligui Nguema.
Je viens d'abord pour gagner. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je vais toujours au bout de ce que j'entreprends.
Alain Simplice Bongouéré au micro d'Yves Laurent Goma. Et je vous signale que l'intégralité des interviews des candidats à la présidence gabonaise avec leurs motivations et leurs programmes sont à retrouver dans un article spécifique sur notre site internet. En Ouganda, 52 millions d'euros de réparations accordées aux victimes de Dominique Ongwen. Cet ancien commandant de l'armée de résistance du Seigneur purge actuellement une peine de 25 ans de prison pour 61 chefs d'accusation dont le meurtre, le viol et l'esclavage sexuel. La Cour pénale internationale a de son côté confirmé que les 50 000 victimes de la guérilla sanguinaire active en Ouganda au début des années 2000 devaient être indemnisées. Reste à trouver les fameux 52 millions d'euros. Étant donné que Dominique Ongwen a été déclaré indigent, c'est au fond au profit des victimes de la CPI qu'il revient de verser les réparations. Mais pour l'heure, Florence Maurice, les caisses de ce fonds sont vides.
Rassembler 52 millions d'euros, la tâche s'annonce titanesque. Le fonds au profit des victimes dépend entièrement de contributions volontaires provenant d'États partis à la CPI, parfois d'organisations internationales ou encore de donateurs privés, des contributions aléatoires. Donc, dans l'affaire Ongwen, le premier appel à financement remonte à juin 2024 et depuis, pas un centime n'a été récolté. Certes, le fonds prévoit une mise en œuvre progressive du programme de réparation par tranche de 5 millions d'euros, mais jamais depuis sa création. Une telle somme n'a été réunie. Un pays comme la Suisse, par exemple, verse en moyenne 50 000 euros par an. L'Allemagne a récemment annoncé une contribution de 150 000 euros, mais elle est spécifiquement destinée aux victimes de l'affaire Almadi concernant le Mali, car le fonds pour les victimes gère plusieurs dossiers en même temps et les États peuvent choisir d'orienter leurs contributions vers des affaires précises. L'affaire Ongwen, plus ancienne et moins médiatisée que d'autres, pourrait être désavantagée. In fine, à ce jour, le fonds au profit des victimes a mené à son terme une seule procédure en réparation. Dans le dossier Katanga, elle concernait environ 300 survivants et un montant total de 900 000 euros.
Ça y est, depuis un peu plus d'1h30, la deuxième salve de droits de douane promise par Donald Trump est entrée en vigueur et l'Afrique n'échappe pas à ces nouvelles taxes. Le Lesotho a par exemple écopé de 50% de droits de douane supplémentaires, le taux le plus élevé du continent. Mardi, déjà, le président américain généralisait une taxe de 10% minimum sur toutes les importations arrivant aux États-Unis, taxe plancher dont hérite le le Maroc, qui échappe en revanche à des droits de douane supplémentaires. Alors peut-on parler d'une chance pour Rabat ? Eh bien, les avis divergent tant l'économie marocaine est dépendante de l'Europe, pilonnée par Donald Trump. François-Hum Ferkataji s'est notamment entretenu avec Mohamed Jadri. Il est directeur de l'Observatoire de l'action gouvernementale au Maroc.
Les États-Unis ne représentent que 4% des exportations marocaines, et ce malgré l'existence d'un accord de libre-échange entre les deux pays, qui date de 2006 et qui dans les faits devient caduque en raison de ces nouvelles barrières douanières. Selon M. Jadri, le Maroc, en étant relativement préservé, les produits marocains deviennent automatiquement plus compétitifs que ceux venant d'autres pays, notamment d'Asie, en particulier dans le domaine du textile. Par ailleurs, dit-il, les investisseurs internationaux, au premier rang desquels les Chinois, mais aussi les Européens ou même les Américains, pourraient être amenés à investir davantage dans le royaume afin de jouir d'une main-d'œuvre à faible coût, tout en contournant les barrières tarifaires les plus strictes. Une position qui n'est toutefois pas partagée par tous les économistes marocains. Zaher Badr Al-Azraq, professeur d'économie à l'université Hassan II, estime lui que la forte dépendance de l'économie marocaine à l'Union européenne pourrait mettre le royaume en position de faiblesse, car si l'Union européenne est affaiblie par la guerre commerciale qui s'annonce, alors le Maroc le sera aussi par ricochet, des positions qui montrent bien la difficulté pour les États de penser une stratégie économique dans un contexte de grande incertitude. François-Hum Ferkataji, Casablanca, RFI.
Depuis le début de semaine, l'Atlantique Music Expo bat son plein à Praia, au Cap-Vert. Notre envoyé spécial Guillaume Thibault a croisé la route de Leroy Pinto, un chanteur originaire du Cap-Vert. Il prône une seule chose, l'amour.
Sans forcer, avec délicatesse, Leroy Pinto chante avec son cœur et porte à même sa peau son amour pour la musique.
J'ai une phrase tatouée sur mon corps. Je vis la musique et la musique me guide.
Cet héritage musical, Leroy Pinto le tient de sa mère, de la vie quotidienne sur son île de São Nicolau.
Surtout à la maison, c'était la musique pour faire dormir les enfants. Les chansons vraiment, le gospel et tout ça, c'était à l'église.
Patché par Loua, pourquoi ailleurs ? C'est ainsi que se nomment les habitants de cette île sauvage où la puissance de la nature fait office de protection. Inspiré par le grand chanteur romantique Feu Indolobo, Leroy Pinto appelle à se méfier du paraître, du mensonge et des apparences, à prôner, à diffuser l'amour et le respect.
Je chante surtout l'amour parce que je suis très romantique.
Guillaume Thibault, Praia, RFI.
L'Atlantique Music Expo à Praia, au Cap-Vert, où il est 4h passées de 43 minutes. Tout de suite, la suite des RFI Matin, c'est avec vous, Clotilde Dumay.
Et merci beaucoup, c'était le journal de Simon Bourg.